Bienvenue dans votre week-end. Bienvenue chez vous à Boulevard 102.1. Bienvenue chez nous dans le retour. Il est 16h08. On a 17 degrés à Québec. 30% de probabilité d'averse pour terminer la journée. Nuages ce soir, cette nuit. Peut-être un peu de pluie. Minimum de 13 degrés. Demain, des nuages en matinée. De la pluie en après-midi. Il y a un risque d'orage avec un maximum de 22 et l'humidex à 25 degrés. Dimanche, des averses. Maximum de 18, le ciel se dégage tragiquement à partir de la semaine prochaine. Lundi, soleil, maximum de 25. Mardi, soleil, maximum de 27 degrés. Pour nous rejoindre, 418-971-1021 par texto. Le téléphone au 780-1021. Également dans le 418, toute la gang de Gravel dans le retour qui vous accompagne jusqu'à 18h. C'est lourd sur les routes présentement, Audrey.
Oui, bien, ça a commencé tôt, c'est lourd, mais c'est moins pire que d'habitude. Si vous êtes sur la capitale, direction Est, auteur Robert Bourassa, c'est un classique, c'est au ralenti. Robert Bourassa, direction Nord, entre Wilfrid Hamel et la capitale, quelques ralentissements à prévoir aussi. Évidemment, c'est au rouge à l'entrée des ponts. Mais pour ce qui est de la rive nord, c'est tout. Si on s'en va sur la rive sud, 20 ouest entre la route du président Kennedy et Taniata. Et si vous êtes sur Guillaume Couture, là, dans les deux directions, il y a encore des problèmes dus aux travaux à la hauteur de Taniata surtout. Autre chose, 418-971-102 texto.
Dans quelques minutes, on va parler avec Éric Sauvé, président de Innovigo et consultant en renseignement, sécurité et défense. Semaine d'actualité internationale quand même assez lourde. On va faire le point sur tout ce qui se passe à Cuba présentement.
Tout ce qui se passe plus à Cuba.
Ouais, les résidents qui sont littéralement laissés à eux-mêmes en proie à une partie d'échecs politiques qu'ils ne contrôlent pas. Et on va revenir également sur la dernière semaine de Trump avec ses nouvelles menaces de tarifs. Mais d'abord, on va retourner dans les nouveautés musicales. Tantôt, Audrey, on a fait le tour des albums. Là, on va faire le tour des singles et des nouvelles chansons qui sont disponibles depuis ce matin.
Puis il y en a quand même une couple de vraiment le fun. Je commencerai par une qu'on écoutait un peu plus tôt cette semaine avec Véro. Oh! Deuxième single de l'album à venir de Wizard, The Gold Album, qui va sortir le 21 août prochain. La tune s'appelle We Might As Well Be Strangers. We might as well be
Le groupe qui va être de passage à la Place Belle le 26 septembre prochain pour la tournée de Gathering.
Muse a maintenant sorti la moitié de son prochain album. Tunes sur 10 qu'on entre les mains.
J'ai tellement hâte d'avoir l'avis de Denis sur cette chanson-là.
Moi, je pas certaine à date. Night Shift Superstar, c'est ce qu'on a entre les mains aujourd'hui. En fait, ce qui est sorti jusqu'à maintenant de Muse pour le prochain album...
C'est tellement diversifié, là.
C'est diversifié, puis on dirait que je suis pas encore conquis personnellement.
Il reste 20 jours avant la sortie de l'album de Wall Signal. Ouais. Moi, je vous résume mon impression très rapidement. Le dernier album de Muse, je l'avais beaucoup aimé, entre autres parce qu'on avait réussi à contenir les excès de Muse pour avoir un son peut-être un peu plus drivé, un peu plus carré. Mais là, le Wow Signal, à la lumière de tout ce qu'on a entendu à date, c'est de l'excès mur à mur, dans tous les sens, en fait, autant dans le grandiose, des fois, je trouve qu'on beurre trois couches de crémage là, avec Muse. Et celle-là, ben, on a décidé d'aller jouer dans le monde de Kavinsky.
Oui, hein? J'aimerais que les boîtes de nuit existent. Je sortirais mes talons hauts et j'irais danser.
Ah ouais.
Et j'ai capoté à ma fin.
Ensuite de ça, cool collaboration entre Electric Callboy et The Offspring. The Offspring a sorti il y a quelques années la chanson « Let the Bad Times Roll ». Si je ne me trompe pas, c'était même le titre de l'album, moins carrément. Et la tune qu'on sort aujourd'hui est inspirée carrément de ça, « Let the Good Times Roll », avec justement une collaboration The Offspring.
Yeah.
Theory of a Dead Man sort aujourd'hui un single qui est probablement mon préféré de la journée. Puis j'ai même pas... Je peux même pas expliquer pourquoi. Winnebago, Lalo, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est une toune qui tire un peu sur des sonorités. Summer, country, rock... écoute... Elle rentre dans la tête, puis elle fait très estivale. Fait que définitivement, celle-là fait partie de ma playlist depuis ce matin. Donc, Theory of a Dead Man avec Winnebago.
On écoute ça maintenant. C'était pas country de même,
c'est ça? C'est ce que je suis en train de me dire. Ils ont dit, OK, Drug va plus bien, on va prendre sa place.
Notre ami Gab Marino, avec qui on va faire le top de sport tantôt, va sûrement tendre l'oreille, peut-être jouer ça dans sa zone country à week-end.
Ben, ça fit.
Beaucoup.
Ensuite de ça, New Found Glory sort aujourd'hui une nouvelle chanson qui s'appelle Good to Go. Pas méchant, pas dans mes préférés.
Pas beaucoup de commentaires.
Ben, écoute,
ça passe.
Non mais c'est correct. Elle est vraiment pas mauvaise. Je pense juste qu'elle m'accroche pas personnellement. Pensez pour l'ami Colosse, Mastodon sort aujourd'hui une nouveauté qui s'appelle Your Ghost Again. Voici, je ne l'ai pas écoutée encore celle-là matin. On n'a pas eu le temps de faire toutes les nouveautés parce qu'il y en a tellement qu'on n'est pas passé à travers avec Max. Là. Sinon, ben, on doit se parler de The Beaches. Je vous en ai jasé un peu cette semaine, mais ça prend de la popularité comme pas possible avec la sortie d'Off Campus sur Prime Video. Et c'est comme l'album de luxe qu'on sort aujourd'hui, mais il y a trop de nouveautés en réalité, là, dont Perfect Ten, qui est quand même...
qui est une toune vraiment accrocheuse. Hein?
Vraiment solide,
honnêtement. On est limite la pop, par contre.
Ouais. Là. C'est fou, tu sais, je vous dis qu'ils prennent la popularité. Là. C'est leur toune Edge of the Earth, qui est dans la série. Ça bondit de 888% d'écoute depuis que la sortie de Off Campus.
Ce qu'une série télé peut faire.
C'est fou.
Audrey, il en reste?
Hey, écoute, on peut remettre ça plus tard si tu veux.
Je pensais que tu avais terminé.
Il m'en reste, mettons que je suis bien honnête avec toi, là, 6. Mais on peut, je peux
on
couper.
On clenche.
Je peux couper. Écoute, Charlotte Cardin, on va faire ça
vite.
Sort Take Me Back aujourd'hui. On s'imagine que c'est en vue d'un futur album. Charlotte qui est comme dans un espace créatif, j'ai envie de dire, depuis quelques années.
Tu ne sens pas partagé?
C'est drôle, les dernières tunes qu'elle a sorties, ça m'a vraiment pris plusieurs écoutes. Je me sens, par rapport à Charlotte Cardin, comme Max se sent par rapport à MGK. Il y a des tunes que j'aime pas, puis à force de les écouter, je suis comme « OK, tu sais, je m'habitue. » Mais la tune pogne déjà beaucoup. Là. Sinon, Jonathan Roy qui va être du côté de l'Agora demain soir. Zagata en première partie. Raphaël Roy également, qui est une de ses choristes. Son single « Mexico » qui est sorti officiellement aujourd'hui. On avait pu l'entendre un peu sur les différentes plateformes, réseaux sociaux.
Ça?
Oui, c'est pas mauvais pour vrai. J'ai entendu sa performance du côté de notre station sœur dans le House Band à Dallaire. J'ai pas eu ça. C'est qui déteste Jonathan Roy?
Pas toi. Clairement pas toi.
Taylor Swift, je veux juste en glisser un mot parce que c'est une chanson qui sort dans le cadre de Toy Story 5. I Knew It, I Knew You. C'est la chanson à laquelle on a accès aujourd'hui.
Je suis pas une Swiftie, mais Taylor Swift est un bébé de Toy Story. Et sur ses médias sociaux, elle a mis une vidéo d'elle habillée en Jessie alors qu'elle avait 5 ans.
Donc, une vraie vidéo, là.
Une vraie de vraie vidéo. J'ai eu un coup de foudre pour cette chanson-là parce que tu vois qu'il y a beaucoup d'amour pour les films histoires de jouets. Elle l'a faite avec Jack Antonoff, qui lui aussi avait genre 9 ans quand le premier Toy Story est sorti. Puis t'as l'impression que tout leur amour d'enfance s'est concrétisé dans cette tune-là. À Avez-vous vu les bandes annonces du nouveau Toy Story qui sort le 19 juin?
J'ai pas vu encore.
Le jouet compétitif s'appelle Lilypad. C'est genre de Leapfrog, là.
C'est
les
drôle.
Tablette, ça a l'air écœurant.
C'est vraiment un méchant bon flash,
ouais,
honnêtement.
Vraiment.
J'ai vraiment hâte de le voir. Donc, ça boucle un peu la boucle pour Taylor Swift, effectivement. Rapidement, il y a Chabouzy qui nous sort aujourd'hui. Cowgirl, je sais que la dernière sortie de Chabouzy, Gab Marino avait dit que c'était la toune de l'été. Hâte de voir ce que Cowgirl va faire. Je ne l'ai pas entendu encore.
C'est ici.
Madonna?
Oh!
Madonna nous sort aujourd'hui Love Sensation. Ça fait quelques chansons déjà qu'on a en vue d'un album à venir.
Hey, vous souvenez-vous dans le temps que Madonna sortait une nouvelle tune puis tout le monde
arrêtait
de vivre?
De tourner, ouais.
C'était des manchettes à LCN puis tout,
là. Là, c'est des mentions.
Ouais. Elle a eu son spotlight quand même très, très, très longtemps.
Ouais.
Plus longtemps que bien d'autres, on va se le dire.
Je termine avec un petit coup de cœur personnel. Je vous parle souvent de Our Last Night. Des fois, ça flop, des fois, ça top. Et aujourd'hui, pour moi, c'est quand même bon. Ce qui sort, c'est Beauty and the Beast, qui est une chanson qui date là, de Justin Bieber et Nicki Minaj, mais on la reprend en version un peu rock metal. Et je pense que je la préfère à l'original.
La drop rock.
J'adore ça.
J'en rajoute une dernière. L'increvable Peter Gabriel qui continue de sortir des tunes une fois de temps en temps.
Il suit les lunes, hein?
Oui,
puis
là, c'est le Bright Side Mix. Donc, on continue avec la formule. Deux versions pour chaque chanson en suivant les lunes, effectivement. Et celle-là s'appelle Hard Lesson. Il y a encore de la créativité dans ce bonhomme-là, hein? Incroyable. Courte pause, on revient, vous êtes à Boulevard.
Bonjour.
Pour aborder l'actualité internationale un vendredi, ça prend une bonne dose de courage, mais ça prend surtout la bonne personne qui est capable de vulgariser les enjeux avec passion, avec beaucoup de détails. Et ça va être un plaisir de terminer notre semaine et de se faire expliquer ce qui se déroule sous nos yeux présentement, parce que ça brasse pas mal à l'international. Éric Sauvé est président de Innovigo et consultant en renseignement, sécurité et défense. Salut Éric, comment ça va? Wow, il y a de la musique. On va arrêter Peter Gabriel. Salut Éric.
Ouais, salut Denis, salut madame.
J'ai le goût de commencer avec tout ce qui se passe du côté de Cuba. Là, les dernières nouvelles nous montrent que c'est le groupe de vacances Sunwing qui a annoncé qu'il suspend indéfiniment toutes ses activités à Cuba. Plusieurs chaînes hôtelières qui ont annoncé dans les derniers jours qu'elles abandonnaient la gestion de certains de leurs hôtels en raison de la situation sur l'île. Le groupe canadien Blue Diamond a aussi annoncé qu'il cessait d'exploiter ses 62 hôtels à Cuba. Et les paiements par carte de crédit, Visa et Mastercard sont également suspendus dès demain en raison des sanctions américaines. C'est une game d'échecs politiques et présentement, ben, c'est toute l'île de Cuba qui est prise à partie.
Écoute, je suis même surpris d'apprendre qu'il y avait encore du tourisme à Cuba
parce que
ça l'a commencé, ça fait quand même un certain temps. Il y a eu un blocus pétrolier depuis janvier, un blocus pratiquement complet. On sait que les Américains ont laissé passer un bateau russe durant les derniers mois. Alors, le problème avec ça, c'est que l'électricité est générée par le pétrole. Pas de pétrole, pas d'électricité, très peu de transport. Les hôpitaux, les listes de chirurgie s'allongent. Les enfants ne vont presque plus à l'école. L'économie de Cuba est complètement asphyxiée depuis au moins 6 mois, là.
Et là, c'est-tu trop simpliste, Éric, de dire que cette game d'échecs-là, présentement, c'est juste parce que Trump veut placer des hôtels à Cuba, puis veut que lui, puis ses chums promoteurs immobiliers profitent
de possession de la place,
de la place, littéralement?
Écoute, c'est intéressant parce que Cuba, avant Fidel Castro, on disait que c'était le bordel de l'Amérique. Je n'exagère pas, ouais, c'est comme ça. C'est le mot qu'on utilisait sous Batista. Il y avait des casinos, il y avait de la prostitution, il y avait de la drogue et tout. Je ne dis pas que Trump veut revenir à ça, mais Trump a vraiment dans la tête de régler les problèmes, les épines dans le pied de l'Amérique qui datent depuis longtemps. Mm-hmm. L'Iran en était un. C'est un problème qui date de la révolution de 79. Le Venezuela, depuis le régime Chavez en 2000. Le dernier en liste, c'est Cuba. Est supporté fortement par son secrétaire d'État, Marco Rubio, qui est fils d'exilés cubains. Et on sait que les exilés cubains dans la région de Miami, qui sont la majorité des pratiquement des gens, votent fortement républicains et veulent voir du changement à Cuba. C'est un leitmotiv depuis des décennies.
Fait qu'à partir de ce moment-là, ce qui se passe à Cuba présentement, ça peut durer combien de temps? Et qu'est-ce qu'on veut? On veut-tu un changement de régime ou on veut un régime qui change son orientation politique?
La population cubaine est peut-être l'une des plus résilientes au monde. Ouais. C'est pas la première crise qu'ils vivent. Moi, j'ai visité l'île la première fois, je pense, en 98. Donc, quelques années après que l'Union soviétique était tombée, on appelait ça la période especial en espagnol. Tout un mot pour dire que ça allait très, très mal. Et les Cubains en ont vu d'autres. Mais là, c'est vraiment la période la plus difficile de leur histoire. Oui, Trump veut un changement de régime, mais encore une fois, en anglais, on dit « hope is not a method », okay? L'espoir n'est pas une méthode. Mm. Si on veut un changement de régime comme on voulait en Iran, il ne suffit pas seulement de bombarder les installations du haut des airs. Il faut aider les Cubains à se soulever. Ça se travaille avec des gens comme la CIA, avec les gens comme les forces spéciales, dont c'est leur métier de faire des opérations clandestines pour aider. Mm. On a vu que ça ne s'est pas fait en Iran, et je mettrais ma main au feu que ça ne se fait pas à Cuba non plus. Donc, on tente de comme asphyxier le régime, faire en sorte que le régime tombe. Oui, les gens, il y a beaucoup de grogne, les gens parlent beaucoup contre le régime plus qu'avant, mais ça fait quand même 60-quelques années qu'ils vivent sous ce régime-là. Encore une fois, même scénario qu'en Iran, ne sont pas armés, n'ont pas de renseignements, n'ont pas de capacités. Espérer qu'ils se soulèvent, c'est carrément s'en remettre à l'espoir. Puis comme j'ai mentionné, ça ne fonctionne pas.
Puis on joue la carte de libérer les peuples opprimés. On l'a joué avec l'Iran, on l'a joué avec le Venezuela. Mais on commence à comprendre un peu que c'est une belle excuse. Ça peut bien paraître pour les gens qui croient Trump, mais sur le fond, la base de ce qui se passe présentement puis de l'étranglement qu'on effectue sur l'île de Cuba, ben l'objectif premier, c'est pas la libération du peuple cubain, là.
C'est toujours le peuple qui est pris en deux feux. Puis ouais. Cuba, c'est vraiment comme un mélange de Venezuela et d'Iran. Au Venezuela, ils ont fait tomber la tête, mais le Vénézuélien moyen n'a vu aucun changement dans sa vie. C'est le même régime Chavez qui est à la tête. En Iran, les gens voulaient les bombes américaines. Il y a beaucoup de gens qui demandaient « Venez nous bombarder, c'est là qu'on est rendu. Ouais. » Je ne dirais pas qu'à Cuba, c'est la même chose, mais les Cubains espèrent une intervention extérieure. Mais l'Amérique, sous Trump, n'a pas l'autorité morale pour faire ça. On sait qu'ils sont en train de négocier. Ils veulent voir le nom Castro partir. Parce que le nom Castro, c'est extrêmement influent en Amérique latine encore. Mais peut-être pour remplacer par un numéro 2 ou un numéro 3, qui va laisser, puis on caricature, mais va laisser des hôtels prochain Trump sur Avaradero, prochain casino Trump. Je caricature un peu, mais on a l'impression qu'il veut seulement que les intérêts financiers américains prévalent et la population, bien, ce n'est même pas une considération dans les plans.
Ça a été une grosse semaine pour Donald Trump, Éric. Il y a de nouvelles menaces de tarifs qui planent sur plusieurs pays. On veut punir les gens qui font du commerce avec la Chine?
C'est-à-dire que depuis l'arrivée de Trump au pouvoir la deuxième fois, les tarifs, c'est le levier le plus important qu'il utilise. Il a été reviré, excusez-moi l'expression, dans ses shorts par la Cour suprême en février, qui lui ont dit qu'il ne pouvait pas imposer des tarifs selon des considérations de sécurité nationale. Alors, ces juristes ont trouvé une loi obscure de 1974, article 310, qui dit qu'on peut imposer des tarifs si les pays ne respectent pas le travail forcé, oui, ne se préoccupent pas du travail forcé. Donc, ils ont trouvé cette loi-là. Personne n'y croit. Ce qui est particulier pour le Canada, c'est qu'on a une loi contre le travail forcé, mais on se fait blâmer de ne pas l'imposer. Donc, ceux qui n'ont pas de loi, ils ont eu 12,5 %. Nous, on s'en est sauvé avec un rabais de 2,5 % parce qu'on a une loi, mais on ne la met pas en pratique.
Mais là, qu'est-ce qu'il veut sur le fond? Qu'est-ce qu'on négocie présentement? On veut isoler la Chine davantage? On veut que les...
Il vient de visiter la Chine. Là. Il y avait l'air body, puis tout. Je comprends rien.
Mais l'effet paradoxal, c'est que ça pousse les gens dans les bras de la Chine parce que l'Amérique n'est plus un partenaire fiable. Les investisseurs ne savent plus sur quel pied danser, ne savent plus comment faire affaire avec les Américains. Donc, tentent de diversifier leur économie ou leurs affaires. C'est qui l'économie mondiale numéro 2? La Chine. Celui qui en retire le plus en ce moment, c'est vraiment Xi Jinping. Mais je pense qu'on en avait parlé lors de la visite. Réussi à avoir Donald Trump et Poutine dans la même semaine et réussi à ne leur accorder à peu près rien tout en les traitant comme des princes étrangers. En déroulant le tapis rouge, mais finalement, ces gens-là sont ressortis pratiquement les mains vides.
Puis là, on a recommencé à traiter le Canada comme un ami lointain ou un cousin gênant. Là, on a recommencé à parler du 51e État et ainsi de suite. Là, on veut, j'imagine, punir le Canada qui a ouvert, entre autres, l'accès aux véhicules électriques chinois, puis ainsi de suite, là.
En fait, Trump, c'est le troll numéro un sur Internet.
Ah oui, absolument.
Trump a vu le rapport de Bloomberg qui disait que le Canada est en récession technique. Ça, c'est techniquement, ça veut dire qu'on a eu deux trimestres où ce que le PIB est reculé de 1 %. Donc, on est en récession technique. A republié le rapport en disant 51e État pour laisser l'impression qu'on serait mieux sous le régime américain. Moi, ma crainte depuis le début des menaces du 51e État, c'est pas de voir des chars d'assaut rouler vers le nord, c'est qu'on ait un étranglement économique qui fasse penser aux Canadiens moyens que ce serait peut-être mieux de devenir un État américain que de vivre dans la pauvreté au nord. C'est le jeu de Trump depuis le début.
Il y a le gros bout du bâton, puis il le sait et il s'en sert.
Ouais, ça, on en a parlé aussi. Il y a le gros bout du bâton. C'est le joueur de poker qui a toutes les chips sur la table, qui n'est pas nécessairement le plus habile, mais il peut aller all-in et faire peur à tout le monde et puis décider de changer de stratégie parce qu'il y a un lot de chips continu. Et puis, il s'en sert constamment, mais non seulement avec ses ennemis, mais avec ses alliés. C'est ça le problème de Trump, c'est qu'il s'en sert contre ses alliés.
Et Mark Carney reste pas mal plus froid et calculateur. C'est-tu la bonne approche à avoir avec un boulé comme Trump?
La bonne approche à avoir avec un boulé, c'est vraiment par moment de lui tenir tête et par moment de l'ignorer. Trump s'excite, puis je dois dire que Carney fait bien les choses. Par moment, il repousse. Par moment, il dit « le président américain dit beaucoup de choses ». Dans le fond, c'est qu'on va juste l'ignorer. C'est paradoxal parce que l'Iran a dit la même chose. L'Iran a dit « on s'est fait dire par les négociateurs américains que le président disait des choses sur Truth Social, mais il fallait un peu l'ignorer. Ouais. » C'est carrément un empereur qui est nu. Et puis tout le monde le sait, mais personne ne veut lui dire.
La touche de l'empereur, ça fait longtemps qu'on le dit, puis j'aime tellement ton parallèle, Éric.
Tout le monde, il dit qu'il y a du beau linge, puis il est flambant nu.
C'est, personne ne va aller à son party de fête. Éric, ça, c'est drôle aussi.
Éric Sauvé, merci infiniment de collaborer avec nous autres. C'est super intéressant, on apprend plein d'affaires.
Merci et félicitations pour vos résultats. J'ai pris une coupe de vin pour vous hier soir.
Oh yes, que c'est apprécié. Aussi, puis oui, c'était résultat aussi, Éric. Bravo, puis merci. Éric Sauvé, qui est président de Innovigo, consultant en renseignement, sécurité et défense. Puis, tiens, vu que la porte est ouverte, je veux remercier Éric, puis je veux remercier tous les autres collaborateurs de Gravel dans le retour, puis souligner au passage qu'Audrey nous a fait des trouvailles au fil des années.
Ah, oh, c'est une démarcheuse hors pair.
Oui, puis elle a une grosse maudite tête de cochon.
Si elle connaissait quelque chose au hockey, là, elle aurait probablement une job pour justement faire du recrutement. Là.
Elle a même réussi l'impossible, c'est-à-dire qu'on puisse avoir avec Gravel une chronique auto parce qu'on a trouvé un chroniqueur passionné, extraordinaire, avec qui on s'entend super bien. Fait que on a des collaborateurs en or, puis ils sont une grande partie du succès de Gravel dans le retour. Puis merci à Audrey pour ça, et merci à tous ceux qui contribuent à leur façon et qui font partie de la famille à vie, hein, en passant. Vous voyez, Émilie, elle chronique peu avec nous autres, mais une fois de temps en temps, elle revient, c'est ça.
De belles relations.
Ouais. Absolument, absolument. Il y a du monde qui ont des accès VIP dans ce studio-là l'après-midi, entre 14h et 18h. Il est 16h40. Véro, je pense qu'on a le temps de regarder le cinéma et le streaming. Mais d'abord, voulez-vous bien me dire comment un char a fait pour se ramasser dans cette position-là à Beauport?
C'est...
Et là, vous autres, vous n'avez pas les images. Quoique vous l'avez peut-être vu passer, là, mais comment on pourrait expliquer ça?
Bon. Littéralement au 45.
Oui, le nez devant au 45.
Dans le secteur de Monseigneur Gauthier, on nous indique que c'est en face du TIM, là, pour vous donner la hauteur. Il y a un stationnement qui est au-dessus d'un muret d'à peu près 5 pieds de haut, qui est pourtant grillagé. Et c'est comme si la personne qui était dans le stationnement à cette hauteur-là s'était trompé entre son reculon et son avant et a passé à travers le grillage et a planté son nez en bas du 5 pieds. Puis ça a l'air d'être un petit VUS, là. Fait que les roues arrière sont encore accrochées sur le bord du stationnement puis le nez est carrément piqué sur le trottoir.
C'est quelqu'un... D'après moi, j'allais dire, c'est soit une confusion entre le gaz puis le break ou une confusion entre le reculon puis l'avant. Mais je suis pas mal sûr que c'est une confusion entre le reculon puis l'avant.
Ah, je pense que oui, ça peut difficilement être autre chose.
Parce que là, t'es...
Le saut que tu dois faire pour être dans ce pic du nez, là.
Tu dis, toi?
Puis c'est Steve Jolicoeur, avec qui Denis s'est entretenu pour parler de la tragédie de l'Halloween, qui a pris les images là-bas, qui a partagé sur Facebook. Oui. Il y a une remorque, mais tu sais, une remorque plateau qui s'occupe de ça, mais pour être capable d'aller chercher le char, ils ont sacré des chaînes de chaque côté des roues avant... Puis, il traîne lentement le véhicule pour être capable éventuellement de le glisser sur la plateforme de la remorque. C'est assez inusité, donc, dans le secteur du boulevard Monseigneur Gauthier.
Est-ce qu'on a des détails sur la personne qui était au volant dans ce véhicule-là? Parce que tout le monde a des préjugés. Il y a des gens qui ont des préjugés de sexe, il y a des gens qui ont des préjugés d'âge, il y a des gens qui ont des préjugés de race. Je veux...
Ça, c'est des préjugés de conduite que tu peux avoir.
Mais il y en a qui associent l'un avec l'autre, tu comprends?
Oui, mais ça peut être maintenant vaste, les préjugés de conduite.
Est-ce qu'on a des détails sur la personne qui était derrière le volant?
Pas pour le moment, mais certains témoins semblent dire qu'il n'y a pas eu de blessés, heureusement.
Mettons que quelqu'un, dans le retour, ferait de l'âgisme. Et vous savez que ce n'est pas mon cas. Je respecte.
C'est Audrey qui fait de l'âgisme, une traite de vieux à tout bout de champ.
Oui, puis moi particulièrement, je respecte les personnes âgées. Moi, il n'y a rien que j'aime plus dans vie que d'être dans une file d'épicerie derrière une personne âgée qui prend le temps de raconter sa vie et de faire son autobiographie à une caissière un vendredi soir.
Clairement moi qui fais de l'âgisme.
Oui, absolument.
Oui, c'est
donc,
vraiment, là,
une
oui.
personne qui fait de l'âgisme comme Audrey pourrait s'imaginer une personne âgée au volant de ce véhicule-là qui a confondu le reculon avec l'avant de son véhicule. C'est un des exemples. Il y en aurait peut-être d'autres. C'est pour ça que je voulais avoir peut-être des détails sur la nature du conducteur ou de la conductrice.
Je pense que c'est plus nécessairement vrai que ce sont des personnes âgées qui se trompent entre le frein et la pédale de gaz.
Parce qu'aujourd'hui, toi, tu penses que c'est les races, hein, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça, t'es raciste aussi. Là, ça. Ben oui, on le savait, ça.
Ça serait trompé de pédale, effectivement, là, selon le texte du soleil.
Okay. Mais j'allais dire, n'importe qui est le moindrement distrait aujourd'hui, qui est le moindrement. T'sais, on ne fait plus attention. C'est tellement un automatisme conduire qu'il y a bien du monde qui font des conneries au volant.
Tu sais que ça pourrait t'arriver, c'est ça.
Je me suis jamais trompée entre le gaz puis le frein.
Entre le neutre puis le parking, par exemple, ça t'est déjà arrivé.
Oui. Pas de frein à main.
Oui, je n'étais pas dans le char en passant.
Non, ton char aurait pu se ramasser dans cette position-là, par exemple.
Mon auto aurait pu faire bien des conneries tout seul. C'était dans mes premières fois à conduire manuel, c'était pas facile.
Dans l'article du Soleil, on mentionne le conducteur n'a pas été blessé, tout comme sa conjointe qui occupait le siège passager.
Oh, Seigneur!
Lui n'entend parler pour le reste de ses jours.
Et elle a
Il
dû,
est
là.
Foutu!
Oh!
Ils n'ont pas été blessés, mais lui a vraisemblablement très mal au bras droit.
Oui.
Parce qu'elle a dû y sacrer une de ses claques en disant « Quoi t'as pensé, mon innocent? » C'est sûr, ça ressemble à ça.
Ça fait 2 ans que je te le dis que tu ne vois plus rien dans le char-là.
C'est l'âgiste, mais bon.
Non, mais c'est un scénario parmi d'autres. Je ne veux pas nécessairement revenir à des personnes âgées, là, mais il ne faut pas me prêter de mauvaises intentions. Mais quand on travaille avec des gens qui font de l'âgisme, comme Audrey, sur une base régulière, ben, des fois, on pogne des plis. Hein?
Je te demanderais des preuves de ça.
J'en ai pas. Tu sais comment est-ce que c'est ma mémoire, hein? Moi étant un vieux boomer, hein,
oui,
Audrey?
Oui,
ben oui.
Non, mais faut dire les choses comme elles sont.
C'est ça, je suis mêlé en avant d'un guichet automatique, hein, Audrey? Ah ouais, dis-les. Hey, on va regarder les nouveautés cinéma et les nouveautés streaming pour la fin de semaine. Il est 5h moins quart.
On y va pour les nouveautés cinéma. On vous a parlé beaucoup de la sortie des maîtres de l'univers Masters of the Universe! Qui reçoit de bonnes critiques. C'est la première fois qu'un des films des Maîtres de l'univers reçoit d'aussi bonnes critiques. Le seul autre qui avait bien réussi, c'était un film, mais en version animée, où on avait vraiment He-Man et She-Ra dans le même film animé, mais ça, on remonte aux années 80. Puis après ça, on a comme abandonné cette franchise-là. J'ai l'impression que ça n'a pas passé de génération en génération, puis il n'y a pas un papa ou une maman qui a donné ses vieux He-Man à ses enfants.
Bien, je pense que pour recréer l'univers de ces bonhommes-là, il faut que tu ailles un certain budget, puis il faut que tu ailles la technologie. Tu sais, des films de Spider-Man, à une certaine époque, c'était impossible d'en faire.
T'as raison.
Parce qu'on n'avait pas la qualité d'effets spéciaux nécessaires pour créer un Spider-Man qui se balance d'un building à l'autre en lançant des toiles.
C'est vrai que dans les années 80, il y avait une technologie qui permettait d'utiliser des messieurs à gros bras pour incarner He-Man, ce qui était difficile de faire dans les années suivantes. L'histoire est tellement basique. C'est le prince Adam qui se transforme en guerrier qui s'appelle Musclor. Et qui a un ennemi, Skeletor.
Oui.
This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, By the power of Grayskull!
Wow! Des tonnes et des tonnes de gros muscles.
Le prince Adam avait une identité cachée.
Oui.
En fait, quand il était un prince, il avait un chandail, puis quand il était musclore, ben il avait une camisole.
Ben, écoute, Superman, c'est un peu ça aussi, là.
Au moins, il y avait des lunettes puis un veston.
Quand Superman est déguisé, il y a des lunettes. tu sais, à un moment donné. Mais je lisais les critiques, là. C'est vraiment un film qui est fait pour du monde de mon âge.
Oui.
Qui ont passé des heures et des heures à prendre le bonhomme He-Man puis à les varger les uns dans les autres.
Sans prendre quoi que ce soit au sérieux,
ouais.
En ayant juste occupé notre temps quand on était jeune. Je suis curieuse, mais clairement, on a un biais générationnel parce que ce ne sera pas le film qui fera le plus d'argent au box-office. En fait, pour les maîtres de l'univers, on estime que ce sera un 30 millions de dollars, mais c'est tellement pour une génération en particulier que c'est un peu dur d'aller chercher plus large que ça. Non, le film qui va faire le plus d'argent, puis c'est drôle parce qu'à l'époque, ça avait été un gigantesque succès. Et dans les dernières années, il y a tellement eu de bons films d'horreur qu'on s'est dit que c'était le bon moment pour sortir un nouveau Scary Movie,
ouais.
Film de peur. Donc, les frères Wayans qui ont pris tout le matériel des dernières années, à l'époque, c'était Frisson, c'était Scream qui les avait d'abord inspirés, puis on était allés partout.
Je vais être probablement trop sévère, mais pour moi, les frères Wayans ont tué le film de parodie.
Ils ont abusé.
Aucun intérêt pour le retour de Scary Movie.
Ils ont abusé. En fait, c'est le 6e film de la franchise, fait qu'il y en a eu 5 au début des années 2000 jusqu'en 2013. Par contre, ça a été une franchise qui a été ultra payante avec le temps.
Tu sais, quand on dit abusé, il y en a eu 5.
Denis, actuellement, la génération qui regarde des films d'horreur, c'est pas toi puis moi.
Non, je comprends.
C'est des ados.
C'est juste que c'est pas une joke à reprendre une scène d'un film. Avant une joke, tu faisais une parodie, il y avait un clin d'œil, il y avait une joke, il y avait une blague.
Ouais.
Les films des frères Wayans, c'est « Ah, j'ai vu ce film-là, j'ai vu cette scène-là dans The Ring. » Il n'y a pas de blague, à part le pot. Ah oui, tout le monde prend du pot. Mais tabouère, c'est pas une joke de faire « Ah, je reconnais ce film-là. »
Bon, parenthèse, bref. J'ai vu un jeune Denis au début des années 2000 quand même pas mal rire le premier. Mais il y avait, tu sais, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas eu de film parodique. C'est vrai qu'avec le temps, on s'est peut-être tanné un peu. On estime qu'on pourrait faire 70 millions en fin de semaine avec le nouveau Scary Movie. Et dernière sortie, moi, c'est pas un univers que je connais, mais tu sais, je vous ai parlé des sensations YouTube qui se retrouvent sur le grand écran. Ça a été le cas du réalisateur d'Obsession qui, lui, avait sa chaîne YouTube qui était suivie en fou. Ouais. Le principe de Backrooms, qui d'ailleurs devrait encore être bien élevé, bien placé au box-office, qui lui aussi est un phénomène web. Connaissez-vous The Amazing Digital Circus?
Non.
C'est un phénomène qui a commencé sur Internet aux environs de 2022 et ça a tellement été suivi qu'ensuite de ça, c'est Netflix qui s'est mis à diffuser les vidéos du Amazing Digital Circus. 25 milliards de vues.
Tabarnouche.
Et là, on amène The Last Act, donc le dernier épisode. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'épisode 8 et l'épisode 9. On amène ça au cinéma. Ça pourrait faire un top 5 pour quelque chose que toi puis moi, on n'a jamais entendu. Mais encore une fois,
on n'est plus là.
On n'est plus là, pantoute. Il suffit que quelqu'un qui est bien suivi sur Internet fasse quelque chose d'un peu de qualité qui va se distinguer du reste. Et les gens qui apprécient son travail vont aller débourser pour aller voir au cinéma ce que ça va donner. C'est en animation, c'est un drame psychologique. Les images sont absolument capotées, mais c'est clairement pas un phénomène qui s'est rendu à moi.
Beaucoup de gens qui nous rappellent que les frères Wayans ont travaillé sur les deux premiers Scary Movie.
Pas sur les autres.
Et après ça, ils ont quitté parce que c'est devenu, selon eux, une affaire de producteurs qui voulaient continuer de faire du cash et traire la vache. Fait que c'est un retour pour eux autres à cette franchise-là qu'ils ont abandonnée après les deux premiers films.
J'ai l'impression qu'il y a une génération qui va découvrir les films parodiques comme nous autres, à un moment donné, à cause des parodies de Top Gun, des pilotes en l'air, on a embarqué dans ces films-là puis qu'on a peut-être laissé justement s'essouffler un peu cette vague-là pour aller séduire une nouvelle génération.
Fait qu'au prix que ça a coûté, les maîtres de l'univers sont fait 30 millions dans le premier week-end. C'est un flop, là.
On va voir à l'international ce que ça donnera. On verra aussi sur le bouche-à-oreille. Mm-hmm. Parce que la première fin de semaine, c'est des gens qui ont aimé ça, qui ont connu ça. Mais s'il se met à avoir un petit buzz, une petite viralité, bien peut-être qu'à ce moment-là, on va être capable d'aller chercher pas mal plus large. On est allé chercher des gros noms. Idris Elba qui est là-dedans, ouais. Jared Leto et quelques autres. Là. Fait que je suis curieuse de voir comment ça va faire au bout du compte.
Il est 16h52. On s'arrête quelques instants. Puis au retour, on fait notre dernière de la saison avec Richard Martineau, segment Québec-Montréal dans le retour.